S'appelait Christine Renon, un nom qui fait écho aujourd'hui en France au mal-être d'une profession. Elle était directrice d'école à Pantin. Ses proches disent d'elle qu'elle aimait son travail, les enfants, le chocolat. Mais le 21 septembre dernier, épuisée par son métier, avec ce sentiment d'être abandonnée par l'institution, elle commet l'irréparable. Elle met fin à sa vie pour espérer faire naître une prise de conscience. Hashtag pas de vague, c'est le mot d'ordre dans l'éducation nationale, nous dit-on. Mais la disparition de Christine Renon a bel et bien déclenché un flot national d'émotions, un tsunami de questions.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Tout le monde est voisin.
7 milliards de voisins, Céline Guillaume.
Bonjour et bienvenue à vous les voisins, les voisines. Comme chaque vendredi, nous ouvrons une discussion autour de l'éducation. Aujourd'hui, nous nous intéressons à ce métier, directeur d'école. Un métier dont on ignorait la détresse jusqu'à ce drame, le suicide de Christine Renon. Comme bon nombre d'institutions, l'éducation nationale n'échappe ni aux lourdeurs administratives, ni au poids de la gestion managériale. Se pose le problème pour les directeurs d'établissement d'assurer à la fois leur mission première, tout en consacrant un temps important à la paperasserie, sans assistance, au contraire de leurs homologues directeurs de collège et proviseurs de lycée. Comment ces directeurs s'organisent-ils au quotidien pour assurer le bon fonctionnement de leur école en répondant aux exigences de la bureaucratie et à la mise en œuvre des politiques du ministère ?
7 milliards de voisins.
Tout le monde est voisin.
Entre paperasserie et bureaucratie, oui, beaucoup de voisins, j'espère que vous en faites partie. Le dur métier de directeur d'école. On se pose la question et pour nous apporter des éléments de réponse, nous accueillons François Robert. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes expert et consultant en éducation, spécialiste de l'Afrique francophone en particulier. Vous avez parcouru une vingtaine de pays et apporté votre contribution à différentes institutions. Bienvenue à vous dans ce rendez-vous. Nous sommes également en compagnie d'Alain Bouvier.
Bonjour.
Vous êtes ancien recteur, professeur de l'Université de Poitiers, professeur associé à l'Université de Sherbrooke au Canada, rédacteur en chef de la Revue internationale d'éducation de Sèvres et auteur du livre, on va en parler, Propos iconoclastes sur le système éducatif français aux éditions Berger-Levrault. Bienvenue à vous, monsieur Bouvier. Les voisins et les voisines, nous attendons vos réactions. Le 33 1 84 22 71 71, c'est aussi notre numéro WhatsApp. Quel regard avez-vous sur cette profession, directeur d'école ? La connaissez-vous ? Soupçonniez-vous que ce métier exige l'exécution d'autant de tâches administratives ? Êtes-vous vous-même chef d'établissement ? À quoi ressemble votre quotidien ? Où que vous vous trouviez dans le monde ? On vous pose toutes ces questions. Alain Bouvier, la première question est pour vous. Êtes-vous un désillusionné du système éducatif français ?
Je ne suis pas un désillusionné. Je suis quelqu'un en colère. Parce que j'aime l'école de la République, je sais tout ce que je lui dois et j'aimerais ou j'aurais aimé que toutes les jeunes filles et tous les jeunes garçons puissent profiter de la même chance d'éducation et d'instruction. Or, je suis obligé de constater depuis une trentaine d'années que les résultats sont pas du tout à la hauteur de mes espérances et que les écarts entre les élèves les plus favorisés et les élèves les plus défavorisés en France se creusent très vite et beaucoup plus que dans la majorité des pays comparables.
Quelle est la mission première d'un directeur d'école ? Quel est le cœur de ce métier ? Cette question, je vous la pose aussi à vous, François Robert, si vous voulez répondre.
Le métier d'un directeur d'école ? C'est de pouvoir accueillir des enfants dans une ambiance qui soit à la fois chaleureuse, exigeante et sécurisante.
Alain Bouvier, le cœur du métier,
ouais.
Où se situe-t-il ?
Je ne peux que partager ce qui vient d'être dit. Quand vous me posez cette question, en réalité, j'ai en tête deux types de comparaisons. D'une part, vous l'avez dit tout à l'heure, je suis le rédacteur en chef de la Revue internationale d'éducation de Sèvres. Nous travaillons avec 120 pays sur les 5 continents. Donc je regarde la situation française en la mettant en écho, sans dire que c'est mieux ailleurs, mais en la mettant en écho avec d'autres pratiques. Et puis, l'enseignement en France est de la responsabilité de l'État. C'est un service public d'éducation. Certes, il y a 1 million d'enseignants, mais il y a 5 millions de fonctionnaires de l'État, des collectivités territoriales, des fonctions hospitalières. Et je compare aussi ce qui se fait pour l'éducation avec ce qui se fait dans les autres services publics. Et effectivement, implicitement dans votre question, vous avez en référence les directeurs des écoles primaires qui sont dans une situation en France extrêmement différente de ce qui se passe pour l'enseignement secondaire. Or, dans beaucoup de pays, il n'y a pas de différence. Et même parfois, ce sont les mêmes établissements qui assurent l'enseignement primaire et l'enseignement secondaire. Et ces différences actuelles ont une origine historique, mais rien ne dit qu'elles soient encore pertinentes aujourd'hui.
Pensez-vous que le directeur, la directrice d'école a aujourd'hui les moyens de mener à bien cette mission dont vous avez parlé, cette mission première, dans ses heures de travail rémunérées, parce que là aussi, il se joue quelque chose.
Mais les missions qui lui sont confiées, ma spécialité universitaire, ce sont les sciences de gestion. Donc j'ai beaucoup travaillé sur le management public. En termes de sciences de gestion, il a le titre de directeur, mais en réalité, il exerce très peu des responsabilités habituelles qu'exerce un directeur dans n'importe quelle organisation. Public, qu'il soit français ou qu'il soit d'un autre pays. Alors effectivement, les missions qu'il a à exercer sont lourdes, sont des missions de proximité, au contact de ses collègues. Il est un père, c'est un père parmi les pères, on dit le premier père, mais finalement, les missions les plus lourdes qu'exercent les autres directeurs des autres types d'établissements,
collège,
ne relèvent pas de lui.
Voilà.
Il y a de lui ou d'elle, bien entendu.
Puisque évidemment,
oui, bien sûr, évidemment.
Jeanne-Marie Hama nous a laissé un message à l'État de Dakar et c'est un message qui a plutôt de quoi réchauffer les cœurs. On a bien compris qu'ils en avaient besoin de nos directeurs d'école. On l'écoute.
Salut les voisins. Concernant le problème des directeurs d'école, ces gens-là, je leur tire mon chapeau. Surtout ceux qui sont à l'intérieur du Sénégal, bien dans la banlieue dakaroise. Ils sont extraordinaires. Imaginez, des parents d'élèves qui se cotisent pour construire le bureau du directeur d'école. Des parents d'élèves qui se cotisent pour construire le bureau du professeur. Parce que le professeur, c'est le directeur d'école du lycée ou bien du CM. Et dans ce cas-là, n'en parlons pas pour le secrétaire, n'en parlons pas pour l'ordinateur et pour l'électricien. Oh là là. Mais marquez tout, aux examens et concours, les meilleurs élèves, ils sont de l'intérieur du Sénégal. Ou bien de la banlieue. Vraiment, je leur tire mon chapeau. Vraiment, si on pouvait les fêter chaque année, comme on fête les meilleurs élèves du Sénégal. Le seul hic que j'ai, certains d'entre eux attendent jusqu'à 2-3 mois des examens pour dire qu'il y a X élèves qui n'ont pas de bulletin de naissance. Pourquoi ils ne le font pas à 2 ans, quand ces enfants-là sont en classe de CE2 ou bien de CM1? Pourquoi ils ne le font pas? C'est le seul hic que j'ai contre ces personnes-là. Sinon, bravo. Et merci à vous, les voisins.
Alors, on entend ce bémol pour les bulletins de naissance, mais le reste du message, c'est bravo à ces directeurs d'école. Je voudrais revenir sur cette directrice d'école, Christine Renon, qui est devenue le symbole du mal-être des directeurs. 3 semaines après la rentrée scolaire, donc, elle se suicide dans le hall de son école à Pantin et elle laisse cette lettre qu'elle adresse à son inspecteur d'académie, à tous les directeurs d'établissement aussi de sa ville. Une lettre qui a été rendue publique avec l'accord de sa famille, bien évidemment, et dans laquelle on entend l'épuisement professionnel, l'isolement, la lourdeur des tâches aussi administratives. François Robert, comment avez-vous vécu ce moment, l'annonce de ce décès ?
Alors, l'annonce de ce décès m'a choqué comme tout le monde. Moi, j'ai plus des références africaines. Je n'ai pas entendu parler de suicide de directeur d'école sur le continent africain. Mais on observe bien, j'observe bien très régulièrement la lourdeur des tâches des directeurs d'école. Que l'auditrice a rappelé, en fait, on a des directeurs d'école qui sont obligés de développer très loin l'art de la débrouille pour obtenir les choses qui sont simplement nécessaires pour faire fonctionner leur établissement, et à qui, à côté de ça, on va demander des engagements un petit peu technocratique sur des résultats, sur des choses comme ça, des indicateurs, des cibles, des chiffres. Et on va demander aussi toute cette partie de paperasserie traditionnelle, de la bureaucratie ancienne, des listes, des rapports d'entrée, des rapports de sortie, alors même que pour le quotidien, ils sont renvoyés à la débrouille.
Là aussi, il y a une part de débrouille, Alain Bouvier, ici, en France, pour les directeurs d'école.
Par définition, c'est un métier où il faut gérer l'inattendu. Le directeur d'école arrive le matin. La seule chose dont il soit sûr, c'est que dans les premières minutes, rien ne va se passer comme prévu, parce qu'un parent d'élève va arriver avec un gros problème. Tel collègue enseignant, ce jour-là, est malade et ne peut pas assurer sa classe. Du début de la journée jusqu'à la fin de la journée, il va falloir faire face à tout ce qui n'était pas prévu et qui sera différent de ce qui s'était passé hier et évidemment différent de ce qui se passera demain. Ça demande une très grande capacité d'adaptation, de réactivité et une certaine solidité face parfois à de la violence.
Ça allait être ma question, un certain stress finalement.
Oui, mais ce sont les métiers. Citez-moi un métier aujourd'hui.
Qui ne génère pas de stress.
Qui a à voir avec l'humain, bien sûr. Mm-hmm. Si on est tranquillement chez soi, dans son bureau, face à son petit ordinateur, c'est pas tout à fait la même situation. Mais dès qu'on est sur le registre humain, aujourd'hui, le stress potentiellement est présent. Ensuite, ce qui distingue les personnes entre elles, c'est leur capacité à savoir gérer le stress.
À résister à ce stress.
Certains même en font un atout. Certains disent, moi, je suis plus efficace quand je suis en situation un peu stressée.
Oui, pour parler familièrement, je carbure au stress, ça me booste.
Je peux même vous dire, personnellement, je ne devrais pas faire des remarques personnelles, moi, j'adorais passer des examens, par exemple.
Le stress,
je savais qu'au moment de l'examen, j'allais donner quelque chose de supérieur à ce que je donnais en temps ordinaire. Mais c'était très personnel, j'en suis bien conscient.
L'éducation nationale a adressé une lettre à la famille de Christine Renon pour reconnaître l'imputabilité au service pour son décès. Donc l'éducation nationale reconnaît sa responsabilité. Est-ce le signe d'une prise de conscience à l'égard des conditions de travail des directeurs d'école? Est-ce qu'on peut voir ce signe à travers cette lettre et espérer un changement?
Je suis dans la même position que vous. C'est-à-dire, je ne suis plus dans l'éducation nationale. D'ailleurs, j'étais plutôt dans l'enseignement supérieur et la recherche. Et je n'ai pas d'informations pouvant me dire, de répondre à votre question, sauf à faire de la langue de bois. Et vous m'excuserez de ne pas en faire.
Ah, non, il n'y a aucun souci. François Robert, je rappelle que vous êtes expert et consultant en éducation. À travers vos nombreuses missions, vous avez parcouru pas mal de pays et pu constater les différents fonctionnements des systèmes d'éducation propres à chaque territoire. Est-ce que la France se distingue par la lourdeur administrative qui pèse sur les directeurs d'école?
Alors justement, la France ne fait pas tellement partie de mes références. Ça fait 25 ans que je n'ai pas travaillé en France.
Est-ce que ailleurs, vous avez pu voir que cette lourdeur administrative était aussi très présente, ou certains pays pourraient être cités en modèle, justement, parce que de ce côté-là, les choses sont beaucoup plus fluides?
Alors, en Afrique francophone, on n'a pas tellement de tradition de gouvernement décentralisé de l'école ou de gouvernance décentralisée de l'école. C'est-à-dire que les écoles sont quand même très dépendantes des hiérarchies administratives. Mmh. Et ce que l'on voit arriver dans l'époque contemporaine, c'est la bureaucratie traditionnelle où on demande à un directeur d'école de justifier le besoin d'un instituteur, de justifier le besoin de travaux, de renvoyer des rapports sur ses effectifs et des états statistiques. Donc une bureaucratie classique, déjà un petit peu lourde, mais enfin forcément nécessaire, un petit peu nécessaire. À côté de ça, vient se greffer aujourd'hui une bureaucratie d'un nouveau genre qui est la bureaucratie des nombres. On demande des taux, des cibles et des objectifs.
Des résultats.
Des résultats. Engagez-vous sur des résultats, identifiez des indicateurs, faites des tableaux de bord. Voilà. Donc tout ça, c'est encore des choses différentes de la bureaucratie traditionnelle. Mm-hmm. C'est des fois un petit peu obscur, un petit peu difficile, et c'est très lourd.
On assiste aussi à ça en France, de plus en plus.
Oui, oui, je partage tout à fait ce qui vient d'être dit. Mais je ferai peut-être une remarque complémentaire. Oui, notre système éducatif français, on va dire depuis l'après-guerre, est un système profondément bureaucratique. Une gestion par les normes, par des injonctions, par des circulaires, extrêmement verticales. Et j'irais jusqu'à dire que ce que nous avons le mieux exporté, c'est notre bureaucratie, notre culture bureaucratique.
Ben on entend toute l'ironie que vous pouvez mettre à travers cette remarque. On va accueillir Jean-Baptiste, qui est un auditeur. Bonjour Jean-Baptiste, bienvenue parmi nous.
Oui, merci beaucoup Cécile, bonjour.
Bonjour Jean-Baptiste, vous êtes directeur d'une école officielle primaire à Tirogolet, dans le sud Kouvou, en RDC depuis 3 ans. Et vous voulez témoigner, nous dire comment vous gérez cette partie administrative de votre métier. On vous écoute Jean-Baptiste.
Oui, je suis en tant que directeur recommandé à mettre en application les normes, les décisions, les différentes lois de l'enseignement primaire pour notre pays, et ceci à travers les activités de la direction et les activités pédagogiques. Ainsi donc, je suis dans un milieu rural où tout est encore manuel, ce qui me rend difficile, très difficile la tâche, et que je dois malgré tout exécuter. Et il s'agit ici de 4 principales tâches, notamment les tâches administratives. Parmi les tâches administratives, je dois assurer l'ordre, je dois veiller à la tenue des contrôles de documents, je dois contrôler périodiquement les carnets de cotation des enseignants, je dois veiller à beaucoup de choses, et ceci pour la bonne marche des activités. Il y a aussi une autre tâche principale, la tâche pédagogique. Ici, je dois visiter les classes. En visitant les classes, je dois me rendre compte que l'enseignant ou l'éducateur exécute bien ce qu'il a prévu et que les enseignants et les élèves assimilent bien la matière pour donner de bons rendements. Il y a aussi les tâches réparties comme qu'on peut appeler comme activités diverses. Ici aussi, on doit manipuler les paperasses, on doit décorer les salles de classe. On doit assumer la propriété de l'école et des écoliers, ainsi de suite. Il y a d'autres activités qu'on appelle activités parascolaires. Ici aussi, il est question d'initier les enfants à jouer au football, à s'adapter aux travaux techniques, à faire des découvertes, à faire des visites, et ainsi de suite. Et donc, beaucoup d'activités au même moment pour une tâche ou bien pour un travail qu'on doit assumer à 4 personnes, je suis obligé de le faire seul. Et ceci vraiment à compte, puisque ça me rend très difficile. Ceci, à part les activités que je réalise au cours de la journée, en même temps avec les enseignants et les élèves, je suis obligé de rester après cours pour contrôler, pour vérifier les documents des enseignants et pour aussi paraphé et mettre des avis favorables ou défavorables pour l'activité suivante.
Jean-Baptiste, combien d'heures par jour consacrez-vous à cette activité?
Au moins 8 heures par jour, 8 heures par jour, et c'est 6 fois par semaine.
6 jours sur 7 alors?
Oui, 6 jours sur 7.
On se rend compte que c'est absolument chronophage. Est-ce que vous avez un pouvoir hiérarchique sur les enseignants, ce qui n'est pas le cas, sous contrôle d'Alain Bouvier, ce qui n'est pas le cas ici en France pour les écoles primaires?
Ce n'est pas le cas en France. C'est le cas la plupart du temps ailleurs.
Ailleurs, mais ce n'est pas le cas en France. Est-ce que vous avez un pouvoir hiérarchique sur les enseignants? Vous disiez contrôler leurs activités. Jean-Baptiste, vous êtes avec nous, on espère.
Oui, allô.
On vous écoute.
Oui, pour les activités des enseignants, nous sommes là pour surveiller pour contrôler les enseignants, puisque les enseignants ne doivent pas travailler souvent. Il y a certains enseignants qui, lorsque le directeur est absent, bon, pour certains, c'est le moment de faire de n'importe quoi. Mais là, on doit les surveiller, on doit les former, on doit les coacher, on doit les aider à améliorer pour donner aussi les meilleurs d'eux-mêmes. C'est pourquoi il y a même le système national de formation au sein des écoles où on doit à chaque fois mettre des enseignants à niveau, les former, les recycler, ainsi que les outiller pour qu'ils soient beaucoup plus qualifiés.
Alain Bouvier a une question à vous poser, Jean-Baptiste.
Non, c'est pas une question, c'est une façon de reconnaître, Jean-Baptiste, que vous avez parfaitement décrit les principales responsabilités qui relèvent d'un directeur d'école, à savoir s'assurer chaque jour que toutes les conditions de toute nature sont réalisées pour que les autres puissent travailler dans les conditions, les meilleures conditions possibles. Ensuite, assurer un certain nombre de liens entre l'école et l'environnement de l'école, avec des activités complémentaires que vous avez citées. En fin de journée, vérifier que tout s'est passé comme cela aurait dû se passer. Et tout au long de la journée, avoir un rôle. On dit aujourd'hui, j'aime pas ce terme, mais on dit en termes de relations humaines, de gestion des ressources humaines, au contact de tout, non seulement des élèves, mais de tous les acteurs adultes. Vous avez parfaitement décrit les fonctions d'un directeur d'école aujourd'hui.
François Robert, vous voulez réagir ? Vous qui êtes un spécialiste de l'Afrique francophone en particulier.
Voilà, j'ai beaucoup apprécié la description de ses tâches par Jean-Baptiste. Et je voudrais dire, si on pouvait rêver de quelque chose, ce soit justement que le directeur d'école ait plus de temps pour s'occuper de préparer la fête de l'école, pour voir s'il y a des possibilités de sortie de l'école avec les enfants, pour faire de l'observation, pour faire ce genre de choses, plutôt qu'à remplir encore plus de papiers.
Ouais, et une activité qui n'est absolument pas numérisée pour Jean-Baptiste. Merci beaucoup Jean-Baptiste pour ce témoignage. On vous remercie. Très bonne journée à vous.
Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie et bonne suite à vous autant.
Merci beaucoup. Le ministère de l'Éducation nationale a présenté le 7 janvier une synthèse d'une consultation auprès des directeurs et directrices d'école. Ils y ont largement participé à hauteur de 74%. Ce qui en est ressorti, c'est que le métier est extrêmement polyvalent. Ben, on vient de l'entendre, comme avec Jean-Baptiste à l'instant, que c'est un métier à responsabilité, qu'il est chronophage et qu'il y a ce sentiment de déconsidération. Encore une fois, depuis combien de temps ce sentiment, depuis combien d'années ce sentiment est là chez les directeurs d'école et pourquoi on ne l'entend que maintenant, Alain Bouvier?
Alors curieusement, et ça c'est quelque chose qui m'inquiète beaucoup, une sorte de déconsidération vis-à-vis de l'action des écoles et des systèmes éducatifs est générale. Ce n'est pas une particularité française. On a davantage de difficultés à recruter, de plus en plus. Ça devient alarmant dans beaucoup de pays, y compris des pays avec un fort pouvoir économique. Je pense à la Suisse, par exemple, qui paye des salaires mirobolants et qui a cette difficulté. Mais plus inquiétant encore, on a pendant les 4-5 premières années d'exercice du métier un taux de démission qui va en s'accroissant. Et la difficulté du travail des cadres intermédiaires, excusez-moi d'employer ce terme, n'est pas vraiment reconnue. Par exemple, l'expression qu'on utilise en France en disant que le directeur d'école est le premier entre ses pairs, d'une certaine façon, nie qui il est. C'est une façon de ne pas vraiment reconnaître toutes les activités qui viennent d'être décrites par Jean-Baptiste, où là, on voit bien que ce directeur, ce qu'il fait, c'est un autre métier que celui d'enseignant. C'est évidemment proche, complémentaire. Il peut en même temps avoir des classes et enseigner, mais dans la partie où il assure des responsabilités, c'est une partie spécifique qu'il faut reconnaître comme étant spécifique et bien entendu la rémunérer par rapport à ce qu'elle est.
Ses spécificités.
Bien sûr.
Vous venez de parler de ce taux de démission important lors des premières années. Est-ce que, François Robert, vous avez pu observer aussi ?
Non, pas du tout.
En Afrique, par exemple, non ?
Pas à ma connaissance, non.
D'accord. Donc là aussi, on peut voir que d'un pays à un autre...
C'est plutôt les pays, plutôt les pays du Nord et les pays développés. Je suis d'accord avec cela, bien sûr, oui.
Voilà, sauf ce que nous observons en Afrique. Par contre, c'est la difficulté à maintenir des enseignants, des instituteurs, des professeurs de collège et des chefs d'établissement dans des endroits un petit peu isolés, un petit peu ingrats en brousse. Et bon, voilà, et comme on a beaucoup de systèmes un peu clientélistes dans l'administration, les plus malins arrivent toujours à se faire rapatrier vers les grandes villes et les brousses restent bien démunies.
Bah la fameuse débrouille à laquelle vous avez fait allusion en début d'émission.
Mais oui, mais on ne peut pas demander de la débrouille aux gens et puis après s'étonner du fait que la débrouille prenne le pas aussi pour de mauvaises raisons.
On va accueillir Amadou. Dans cette discussion, non, on va l'accueillir dans quelques minutes. On va laisser Amadou arriver parmi nous. Ça me permet de m'intéresser à votre livre, Alain Bouvier.
Merci.
Le titre déjà interpelle, propos iconoclastes sur le système éducatif français. On a plutôt le sentiment que dans l'éducation nationale, la parole reste muselée, même une fois à la retraite, et que ces propos-là, on a du mal à les obtenir. Là, ils sont carrément iconoclastes, donc ils vont un petit peu à l'encontre de ce qu'on peut entendre habituellement. Pourquoi ce titre ?
Ils sont pas faits pour heurter quiconque, mais problème par problème, il me semble important de montrer que tout est pris en compte, sauf l'intérêt des élèves. Je prends la question des rythmes scolaires et la semaine ramenée à quatre jours d'école. Sans doute tout le monde y gagne. L'État, les collectivités territoriales de façon financière. Les enseignants, parce qu'ils ne sont pas là un jour de moins par semaine. Mais en offrant à nos petits élèves français, sur l'ensemble de leur scolarité primaire, une année scolaire de moins de scolarité, c'est ça qui a été décidé. On offre une année scolaire de moins de scolarité. Je ne peux pas croire que ce soit l'intérêt des élèves. Donc il y a une fabuleuse hypocrisie de tout le monde. Chacun prend en compte son intérêt d'institution, de groupe, de corporation, etc. Sauf l'intérêt des élèves. Et de mettre cela sur la table, alors c'est un peu iconoclaste. Parce qu'évidemment, dans la langue de bois, les partenaires que j'ai cités commencent toujours leurs interventions en disant, en raison de l'intérêt des élèves, voilà ce que nous proposons. Et dès que vous regardez ce qui est proposé, immédiatement, vous êtes obligé de constater que ça va à l'encontre de l'intérêt des élèves.
On va entendre la parole d'un enseignant, Amadou, qui est là avec nous. Vous avez 35 ans, vous êtes enseignant en informatique à l'école privée en primaire et en secondaire. Bonjour, bienvenue Amadou.
Bonjour Céline.
Amadou, où, dans quelle ville vous trouvez-vous ?
À Bambéry, à 120 km à l'est de Dakar.
D'accord, bienvenue. Alors Amadou, vous avez plutôt trouvé des systèmes qui vous permettent d'avoir un quotidien moins lourd ?
Ben oui, parce que en fait, en 2000, le professeur Ousmane Diouf a mis sur pied le SESAME, le système expert informatique pour la sécurisation et l'automatisation des tâches du monde de l'éducation. Et ce système, Céline,
oui,
est un système informatique qui a pour but trois actions. D'abord, l'informatique. Ensuite, la sécurisation et l'automatisation des tâches répétitives que les directeurs d'école, les surveillants et les enseignants ont vraiment à chaque fois. Et c'est vraiment très satisfaisant parce que la gestion administrative, par exemple, des bulletins de composition, des bulletins de notes, des listes de classes par ordre alphabétique, par ordre numérique, tout est géré par le système expert. Et ça a été créé depuis 2000, mais ce qui lui avait valu le titre de directeur de la CIM au niveau du ministère de l'Éducation nationale du Sénégal. C'est la cellule informatique du ministère de l'Éducation. Un poste qu'il a décliné parce que vraiment c'est un enseignant qui aime beaucoup l'amour pour ses élèves.
Mm-hmm.
Mais en 2009, Microsoft Afrique lui avait décerné le prix de Best Practice pour ce logiciel informatique à Ouagadougou, avec Cheikh Moudi Ouadjara à l'époque. Et depuis lors, tous les autres systèmes que l'on utilise au Sénégal, comme Best Grant, comme Planet, vraiment découlent de ce système expert-là.
Donc là, on voit que l'informatique peut venir au secours du quotidien des enseignants et des directeurs d'école.
Exactement.
Mais tous ces systèmes prennent du temps aussi. Il faut rentrer les informations, non. Il faut les renseigner. Ouais.
Mais en fait, les informations, Céline, en début d'année. Parce qu'en début d'année, ici, par exemple, à Bambéi, les enseignements, c'est-à-dire les inscriptions et tout, démarrent au mois de septembre, c'est-à-dire un mois avant octobre, quoi. Maintenant, quand on introduit vraiment la totalité des informations des élèves, et que les surveillants et les enseignants entrent toutes ces données-là, ensuite, maintenant, c'est fini. Au cours de l'année, on ne met plus des informations. Et maintenant, c'est le logiciel qui gère tout le reste. C'est-à-dire, au lieu de calculer des moyennes pour les collègues enseignants, par exemple, ça se fait automatiquement par le biais de l'aspect automatique de ce système expert.
Donc, vous êtes plutôt satisfait.
Voilà, exactement. Donc, le travail se fait en amont. Et maintenant, dans la suite chronologique de l'année, vraiment, tout est automatisé grâce à un système expert. Et nous remercions beaucoup le professeur Ousmane Diouf pour ce fait marquant quand même.
Et nous, on vous remercie pour votre témoignage, Amadou.
Voilà, merci beaucoup,
merci
Céline.
Merci beaucoup, je vous souhaite une excellente journée à notre écoute.
Voilà, merci. À Bambéi, voilà.
Au revoir. Alors, les directeurs d'école ont une décharge partielle ou complète d'enseignement. Quelles sont les conditions, les critères qui déterminent cette décharge d'enseignement, Alain Bouvier ?
Le nombre de classes dans l'école.
Voilà. Et c'est là que ça se joue, parce que je sais que dans les revendications, dans ce que les directeurs d'école attendent et réclament, c'est cette fameuse décharge d'enseignement.
Oui, alors je pense que ça apporterait certainement plus de confort et de flexibilité à la personne qui bénéficie d'une telle décharge. Je ne suis pas sûr que ce soit le problème principal.
L'un des problèmes.
C'est l'un des problèmes, oui, bien sûr.
Alors parlons-en, quel est-il ce problème principal ?
Ben, permettre au directeur d'école d'être véritablement un directeur d'école. Assurer la responsabilité sur son école, sur les questions qui le concernent, qu'elles soient pédagogiques, administratives, humaines, relationnelles, les liens avec l'extérieur, et le rendu de compte. Je pense que dans une fonction publique, de tradition, les fonctionnaires de l'État ont à rendre compte à leur hiérarchie. C'est tout à fait classique. Et moi, j'ai toujours dans ma carrière aimé les moments où j'avais à rendre compte à ma hiérarchie, d'une façon ou d'une autre. La hiérarchie pouvant être, d'ailleurs, quand on est à la tête d'un établissement avec un conseil d'administration, c'est d'abord à son conseil d'administration qu'on a à rendre des comptes. Mais ça peut être évidemment à un supérieur hiérarchique, lorsqu'il y a un supérieur hiérarchique. Je me rappelle, il y a très longtemps, quand j'étais conseiller technique d'un recteur dans l'académie où j'étais, j'aimais bien les moments où j'avais à venir en tête à tête face à lui m'expliquer sur la façon dont j'avais exercé ma mission, ce que j'avais réussi et ce que j'avais raté.
Mais ce que déplorent les directeurs d'école en ce moment, c'est ce manque d'accompagnement justement de la hiérarchie, c'est cette solitude face aux difficultés, face aux prises de décision. François Robert, qu'en est-il de cet accompagnement de la hiérarchie auprès des directeurs d'école, là où vous vous êtes rendu, en Afrique en particulier ?
Il est en général assez lointain, pas très précis, pas très quotidien, ce qui s'explique par le fait que les administrations n'ont pas de moyens de fonctionnement.
Voilà.
Et donc on a un système qui est bâti sur une espèce de pyramide hiérarchique, théorique, où chacun doit rendre compte à l'étage au-dessus, mais donc avec très peu d'autonomie de chaque échelon, alors que cette hiérarchie, elle ne peut pas s'exercer parce qu'on n'a pas les moyens de communiquer en téléphonie, en poste évidemment, et en déplacement.
Et donc en cas de difficulté, vers qui doit-on se tourner? Où trouve-t-on une assistance, une épaule, une écoute dans le contexte que vous nous décrivez?
C'est les parents
qui prennent le relais.
Ce qui fait le succès d'une école africaine, surtout si elle est un petit peu éloignée de la capitale, c'est la qualité de la relation entre le directeur d'école et le comité de parents.
Alors ce qui est très intéressant, c'est que dans le livre d'Alain Bouvier qui est avec nous, propos iconoclastes sur le système éducatif français, il y a cette phrase choc qui a été tenue par des Québécois qui ont dit à Alain Bouvier, en France, vous laissez les parents sur le paillasson. Ils sont en dehors de l'école.
Oui, je leur avais
ce
fait...
Ce qui va à l'encontre de ce que vient de nous dire François Robert et de ce qui se passe dans les écoles en Afrique.
Oui, je les avais accueillis à leur demande. Ils voulaient voir ce qu'un pays centralisé comme le nôtre pouvait réussir, alors qu'eux sont dans un pays fondamentalement décentralisé. Et après avoir visité deux académies de province, ils sont partis en me livrant cette remarque. Et j'avoue que sur le moment, je n'ai pas tout de suite compris ce qu'ils voulaient dire. Ça m'a invité...
Les mots sont forts, hein ?
Oui, 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 oui. Et ça m'a invité à aller voir de plus près ce qui se faisait ici ou là dans un certain nombre de pays. Et c'est là où j'ai découvert que les relations possibles entre le milieu pédagogique et les parents d'élèves pouvaient être extrêmement variables, à un point inimaginable. Dans mon livre, je cite un certain nombre de questions, points de repère, en disant « dans tel pays, ceci est-il possible, ceci ne l'est-il pas ?» Et si on regarde bien, je crois à la quasi-totalité des réponses que j'ai formulées, pour la France, on répond « oui, une fois ».
Oui, c'est vrai. Nous allons accueillir un autre directeur d'école, Adjemida, avec nous. Bonjour et bienvenue. Vous vous trouvez dans la banlieue de Lomé. Vous exercez ce métier depuis 16 ans.
Ah oui.
Donc une jolie, belle et longue expérience du métier. Bienvenue, Adjemida.
C'est ça, hein? Mmh.
Oui. Bienvenue parmi nous. On vous écoute.
Bien, vous m'écoutez. Je disais que le métier d'un directeur de collège est un métier très noble, mais qui absorbe énormément. Vous devez vous absorber pour le travail. Et vous avez à faire face à vos supérieurs hiérarchiques. Là, je parle des inspecteurs du ministre. Vous avez à travailler aussi avec vos collègues de service, vos administrés, et vous avez également à faire à vos élèves. Alors, les parents d'élèves aussi, donc, doivent être dans vos occupations. Et les responsabilités du service aussi sont là. Et nous, le directeur doit avoir une responsabilité administrative, pédagogique et financière. Parfois, nous n'avons pas de comptable. Vous me suivez ?
On vous suit attentivement.
Allô ?
Oui, on est là, on vous suit attentivement.
Oui, on n'a pas de comptable. Oui. Donc, on n'a pas de comptable.
Donc, c'est vous qui assurez, c'est vous qui assure la partie comptabilité de l'établissement ?
Ce qui fait que... En réalité, le directeur est absorbé. Il est très pris par le travail. À tout moment, il est en train de réfléchir à ce qu'il faut faire pour que l'établissement marche très bien. Mais le travail est d'autant plus facile lorsqu'on a la chance d'avoir des collègues de travail qui ont vraiment le sens de hiérarchie. Dans cela, les différentes directives que vous allez leur donner, ils vont les appliquer. D'autres même auront envie que vous leur déléguiez une partie de vos responsabilités, bien sûr. Même s'il arrive que vous décelez un certain professeur de la compétence et que vous déléguez une responsabilité, vous devez avoir un regard et les surveiller pour que tout marche bien. Voilà ce que je voudrais dire. Madame, dites-moi s'il vous plaît,
oui,
les motifs qui ont conduit, comme vous l'aviez dit, une directrice à se suicider pour des raisons liées à son travail. Quelques mots sur ça, madame, s'il vous plaît.
Eh bien, il s'agit de... Allô ? Je suis avec vous, Adjemida. Il s'agit de Christine Renon. Trois semaines après la rentrée. Alors, trois semaines après
la rentrée. Quelles sont les différentes tâches qu'elle trouve, oui ?
Non, trois semaines après la rentrée scolaire. Donc, c'était au mois de septembre. Effectivement, elle s'est suicidée au sein même de son établissement, qui se trouve en banlieue parisienne. Elle a laissé une lettre assez longue dans laquelle elle décrit vraiment par le menu toutes ses activités au quotidien de directrice d'école et elle explique à quel point elle s'est retrouvée débordée, acculée. Elle aime son métier, elle le dit, on l'entend, mais on entend aussi qu'elle était très isolée, qu'elle n'a pas trouvé de réponse ni d'assistance auprès de l'institution et elle a décidé d'en finir avec la vie, mais aussi pour, comme j'ai pu le dire, pour faire naître, je pense, une prise de conscience chez les uns et chez les autres.
Merci beaucoup.
Ben, je vous en prie, Adjemida.
Au moment où le du travail n'en trouve pas, lui, elle a trouvé, elle trouve que c'est trop dur et elle s'est donné la mort. Ça, c'est de la lâcheté. On ne doit même pas parler
ses
de
propos
ça
n'engagent que vous, Adjemida.
Ses
propos n'engagent que vous, Adjemida. Je pense que... Qui sommes-nous pour juger cette femme ?
Hein ?
Qui sommes-nous pour juger cette femme ? Vos propos n'engagent que vous.
On peut juger les hommes à partir des actes qui nous sont pas...
Alors la ligne se dégrade. Adjemida, je vous souhaite une très très bonne journée et merci pour cette participation sur notre antenne. Au revoir. Je pense qu'Adjemida n'est plus avec nous. François Robert ou Alain Bouvier, si vous voulez réagir.
Une simple remarque concernant le terme accompagnement. Mm-hmm. On entend régulièrement dire... les directeurs ou d'autres catégories de personnel souffrent d'un manque d'accompagnement. Pour moi, c'est un mot valise. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Ça mériterait que ça soit explicité sur la nature, sur la fréquence, sur par qui. Qu'est-ce que ça veut dire ? Vraiment, j'ai peine à imaginer très concrètement ce que cela signifie.
Est-ce qu'on peut y entendre un manque de relais ?
Peut-être. Il faudrait demander à ceux qui emploient ce terme, ce qu'ils mettent derrière ce terme.
Je voudrais progresser vers des pistes d'amélioration de ces conditions de travail et vers les demandes que peuvent formuler les directeurs. Alors étonnamment, plus qu'une revalorisation salariale, ils demandent plus d'humains, plus d'aide humaine. Alors ça fait écho aussi aux propos du ministre de l'Éducation, plus d'humains dans l'humain. Vous en parlez dans votre livre, Alain Bouvier. C'est éclairant aussi sur la détresse que peuvent avoir ces directeurs d'école.
Oui, de façon un peu alors, provocatrice dans mon livre, à propos du développement des relations humaines au sein de l'éducation nationale, je me permets de dire chiche.
Chiche, on y va.
Chiche, on y va. C'est effectivement, ce système étant... profondément bureaucratique et géré par des normes et par des circulaires, la relation humaine, objectivement, a très très peu d'importance. C'est complètement paradoxal, puisque le métier d'enseignant, c'est justement un métier de relations humaines avec les élèves, entre collègues et avec les familles, et éventuellement avec des partenaires quand on fait de l'action culturelle, du sport, etc. Or, au niveau des professionnels et de leur hiérarchie, de leurs collègues, etc., la dimension humaine est gommée uniquement par des questions de barème, d'avancement. Voilà. Et ça se réduit ou ça se réduirait à cela. Pour moi, c'est d'une tristesse affligeante.
Il y a cette aide humaine en matière administrative qui n'existe plus aujourd'hui pour les directeurs d'école, qui a été supprimée au début du quinquennat. Il y avait ces emplois aidés qui permettaient d'avoir une assistance pour les directeurs d'école. Là aussi, il y a un manque. Un manque qui est comblé, par contre, pour les proviseurs, par exemple, dans les lycées. J'ai envie de demander à François Robert, est-ce qu'en Afrique, par exemple, là où vous avez apporté votre expertise et passé du temps, les directeurs d'école ont une aide administrative, par exemple ?
Oui, souvent sous le couvert de formation ou sous l'appellation de formation. C'est-à-dire on va les réunir quand il y a une nouvelle tâche ou même une tâche un peu récurrente. Comme l'enquête statistique annuelle, on les réunit et puis on les aide un peu, on leur explique comment remplir cette tâche-là. Après, au quotidien, je crois que c'est la même grande solitude que celle qu'on peut déplorer en France.
Donc on la retrouve finalement, dans un pays et dans un autre. Y a-t-il un pays qui pourrait être cité en modèle en la matière ?
Il n'y a pas, évidemment, il n'y a pas, de pays qui puisse être cité comme étant exemplaire sur tous les points. Mais quand on se livre à des comparaisons internationales, comme nous le faisons dans la revue internationale de Sèvres, sujet par sujet, thème par thème, on s'aperçoit que certains pays ont des réussites beaucoup plus intéressantes que d'autres pays. C'est sujet par sujet. Alors évidemment, quand on veut ensuite regarder pour un pays donné quelles seraient éventuellement les réformes à mettre en place, on vient d'organiser un énorme colloque international à Sèvres qui était sur le thème « Comment peut-on réformer des systèmes éducatifs ?» Et plusieurs, le ministre français est venu, et plusieurs ministres ou anciens ministres d'autres pays sont venus. On s'aperçoit qu'il faut à ce moment-là faire des choix par rapport à des éléments qui sont plus ou moins essentiels par rapport à la culture de notre pays. La culture de chaque pays est spécifique. Mais ce qui me semble se dégager dans la majorité des pays, c'est que le réseau, le niveau horizontal, le niveau de terrain est essentiel. C'est ça qui se dégage.
Je voudrais l'un et l'autre vous faire réagir à cette phrase qui se trouve dans votre livre, Alain Bouvier. C'est une phrase qui nous prive, j'ai l'impression, de tout espoir, ou presque. J'ignore s'il en est de même ailleurs, mais de la sorte, je redoute que notre pays soit face à un futur raté, pire que tout ce qu'il a connu à présent. Là, vous nous privez de tout espoir.
Alors, ce qui me fait le plus souffrir, si j'ose dire, c'est que la communauté pédagogique, qui est composée d'intellectuels formés à haut niveau, au moins Bac plus 5, souvent plus, ne sait pas, en tant que collectivité, ne s'est pas emparée de la question et laisse l'extérieur, des organismes, des associations, etc., décider de ce que sera l'école du futur. Et moi, je crois que les vrais professionnels de l'éducation doivent s'emparer du sujet.
Je voudrais donner le mot de la fin à François Robert en quelques secondes. Le métier de directeur d'école a-t-il encore de quoi faire rêver, François Robert ?
Ah, il faudrait bien qu'il fasse rêver. Voilà. Il faudrait vraiment bien qu'il fasse rêver. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui s'investissent localement et en disant, ben voilà, il faut prendre ça à bras le corps. Et puis cette école, ça doit être, comme on disait tout à l'heure, un endroit chaleureux, accueillant, exigeant. Et on ne fait pas simplement remplir des papiers pour le directeur et puis faire scander les enfants leur table de multiplication, mais aussi un lieu où les gens se rencontrent, les parents, la communauté de quartier villageoise, où il y a des fêtes de l'école. Et voilà, et ça peut être quand même tout à fait attirant d'être la cheville ouvrière d'un lieu comme ça qui ait un vrai sens local.
Merci à vous, François Robert. Je rappelle que vous êtes un expert de l'Afrique francophone et vous êtes un expert en matière d'éducation. Merci à vous, Alain Bouvier. Je rappelle le titre de votre livre, Propos iconoclastes sur le système éducatif français, aux éditions Berger-Levrault. Et merci à l'équipe, Cécile Lavolo, Delphine de Dianous, Alix L'Hospital et Romain Dubrac, sans oublier Raphaël Lazy. Continuez à nous suivre sur les réseaux sociaux. Je vous dis à bientôt. C'était Céline Guillaume. Au revoir.
Merci.